Europe 1.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain Philippe Besson pour son nouveau roman entre réalité et fiction, comme souvent, c'est dans un instant. Ensuite, visite de bibliothèque, on va parler Shakespeare avec Denis Podalydès. Et à la fin de l'émission, toute l'équipe, libraire, chroniqueur, BD et jeunesse, viendront nous donner leurs idées de lecture. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Celui qui raconte, c'est le fils. Il a 19 ans, il a quitté Bordeaux pour la capitale, pour l'opéra même, puisqu'il est danseur. Il a laissé ses parents et sa petite sœur de 13 ans, Léa, et un jour, c'est elle qui l'appelle pour lui dire que papa a tué maman. Bon, 17 coups de couteau, et on suit en fait l'itinéraire de ceux qu'on oublie vite après le procès, les enfants de la victime. On peut parler longtemps encore, c'est vrai, après une affaire comme ça, des violences faites aux femmes, des processus, etc. Il y a des débats, il y a des sociologues, mais on n'évoque que rarement les gamins. Les gamins, qu'est-ce qu'ils deviennent après un coup comme ça? D'autant que donc, ils perdent leur mère. Mais, aussi monstrueux soit-il, ils perdent aussi leur père, qui finit en général en prison. Bonjour Philippe Besson.
Bonjour Nicolas Caro.
C'était cet oubli qui vous intéressait? Parce que le livre... Ceci n'est pas un fait divers, c'est son titre, chez Julliard. C'est ça, c'est tout ce qui se passe ensuite.
Oui, c'est cet oubli qui m'intéressait, puisque un jour, effectivement, je me suis trouvé face à un jeune homme qui était venu me voir dans une librairie pour me dire qu'il aimait mes livres, donc avec lequel j'ai entamé une conversation. Et puis, j'ai fini par l'interroger sur son histoire familiale, comme on le fait quand on rencontre et qu'on apprend à connaître les gens. Et puis, il m'a dit ça, il m'a dit, faut que je te dise, mon père a tué ma mère. Donc, je suis resté, évidemment, dans une forme de sidération quand il m'a raconté ça. Et je lui ai demandé, mais pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Et c'était pas un reproche, mais j'essayais de comprendre pourquoi il avait gardé ça secret alors que nous avions déjà eu plusieurs conversations. Et il a commencé par me dire, parce que la mort de ma mère emporte tout et moi je suis à côté. Et cette phrase-là m'est restée, le « je suis à côté ». Moi qui n'écris que sur les gens qui sont à côté, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, on ne songe jamais à ceux-là qui sont à côté. Et puis il a ajouté, de toute façon, je ne saurais pas raconter l'histoire. Alors là, évidemment, le romancier que je suis se dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour réparer cette injustice ou ce silence. Pour dire, oui, ils sont là, ces enfants, ils existent, ils se retrouvent orphelins, d'une certaine manière, d'un coup. Et il faut après continuer à vivre. Continuer à vivre après ça. Et c'est douloureux, long, délicat, et en même temps, c'est plein d'un élan magnifique et terrible qui est celui de la fraternité. Parce que là, en l'occurrence, c'est un frère et une sœur, et il faut qu'ils apprennent à se sauver ensemble.
C'est d'ailleurs, le livre s'ouvre sur ce mot, cet exergue, cet épigraphe athée, dont le témoignage a fait germer ce livre. À côté, il était à côté, vous disiez, ça faisait aussi un bon titre, à côté, mais vous avez choisi « Ceci n'est pas un fait divers ». On comprend bien la référence, mais pourquoi vous avez choisi ce titre?
Parce que justement, trop souvent, ces féminicides ou ces violences conjugales sont rangées dans la rubrique des faits divers. C'est une ligne dans un journal. Il a assassiné sa conjointe, sa femme, 30 coups de couteau à Charleville-Mézières ou ailleurs. Et puis la page d'après, c'est les courses ou le cinéma, et c'est bien normal, c'est comme ça que ça se passe, l'actualité. C'est aussi une statistique dans un décompte macabre qu'on nous livre, et qui est indispensable, ce décompte. C'est grâce à lui aussi qu'on sait des choses. Mais ça oublie que c'est une histoire humaine, c'est une histoire à hauteur d'homme ou de femme, en tout cas à hauteur d'humanité, que c'est une vie emportée et des vies dévastées autour, tout autour. Et puis ça dit aussi que c'est un fait de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si... le crime passionnel, par exemple, existait encore. On a vécu tous, et moi le premier, sur cette histoire romantique et cette fable absurde du crime passionnel, dont je rappelle que l'essence, c'est « il l'aimait tellement qu'il l'a tué ».
Bon, je répète. Et donc, sa peine est moins forte.
Non, mais voilà, c'est ça. C'est quand même totalement absurde. Il l'aimait tellement qu'il l'a tué. Voilà. C'est presque une circonstance atténuante. Vous voyez, il a été privé de sa femme, pauvre homme. Bon. Et donc, moi, j'avais envie de redire que non, c'est pas ça. Et que ça raconte quelque chose sur la domination masculine et sur le fait qu'un homme se sent propriétaire de sa femme. Puisque, hélas, on sait que ces féminicides surviennent dans au moins 2 cas sur 3 parce que l'épouse, la conjointe, dit qu'elle s'en va. Donc, c'est l'idée de l'affranchissement, de l'émancipation de cette femme qui lui est insupportable. Et il la tue pour la garder, il la tue pour l'empêcher d'avoir une autre vie. Donc, ça dit quelque chose de nous. C'est aussi pour ça que ça n'est pas juste un fait divers, évidemment. Mais c'est avant tout, pour moi, ses répercussions après, cette idée de dire il y a une histoire qui continue.
Oui, mais vous avez l'air de dire aussi que c'est toujours aussi terrible cette place qu'on fait à ce genre d'affaires et que rien ne bouge. Mais en fait, chaque auditeur d'Ondelat sait qu'effectivement, un crime passionnel, c'est presque une circonstance atténuante. C'était, puisque c'est de moins en moins le cas, ou quasiment plus le cas. Et puis, en fait, j'avais pensé dans mes questions, quand j'ai écrit l'interview, j'allais dire créé, genre, que j'allais dire, mais quelle coïncidence, puisqu'en ce moment, on parle beaucoup de l'affaire Julie Douib, qui a été assassinée par son compagnon. Mais après, je me suis dit, en fait, chaque semaine, il y a une nouvelle affaire. J'aurais pu le recevoir à n'importe quel moment. J'aurais eu une affaire dont on aurait pu parler, mais c'est pas parce qu'il y en a plus, c'est parce qu'on en parle énormément et qu'on passe notre temps à dire ce n'est plus possible, il y a ces décomptes, etc. Ça avance quand même.
Alors, bien sûr que ça avance. D'abord parce qu'effectivement, on a, je crois, maintenant fait un sort à cette sornette du crime passionnel et que les féminicides, même si le terme n'est pas reconnu comme tel par la justice, sont quand même reconnus et que les coupables prennent en général perpétuité ou 22 ou 25 ans de prison. Donc les choses ont considérablement changé. On sait aussi que, par exemple, les forces de l'ordre, police, gendarmerie, sont mieux formées à recueillir la parole des victimes et qu'aujourd'hui, par exemple, on aurait du mal à concevoir qu'une femme aille dans un commissariat pour dire « Alors voilà, mon mari me bat et je pense qu'il va me tuer » et qu'on la renvoie chez elle comme on le faisait encore il y a 5 ans. Et qu'on lui dise « Écoutez madame, ça c'est une histoire privée, ça ne regarde que vous, c'est pas un trouble à l'ordre public, arrangez-vous entre vous. » Ce qu'on disait encore il y a 5 ans et ce qu'on dit de moins en moins.
Donc
c'est
vrai existe encore.
Mais ça existe encore. Il faut, voilà. Et donc c'est ça qu'il faut intégrer, c'est que ça existe encore. Donc on progresse, on entend beaucoup mieux, on prend beaucoup mieux en compte, mais ça existe encore. En revanche, qu'on ne prend pas en compte, c'est les enfants. C'est-à-dire que quand le crime, comme c'est quasiment toujours le cas, survient dans la maison de famille, et ben les enfants sont expulsés de la maison de famille. Et il n'y a rien, absolument rien, qui est prévu pour leur hébergement d'urgence. On ne sait pas comment on va les prendre en charge. Il faut dire aussi que l'autorité parentale du père ne lui est pas retirée sur les enfants mineurs. Ça, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que quelqu'un donc, peut tuer la mère de ses enfants, mais être reconnu comme un bon père pour ces enfants-là.
Comme si ça n'avait pas de lien.
Ça n'a pas de lien du tout. Il a toujours l'autorité parentale sur les mineurs. Donc, on ne progresse pas, là, vous voyez. Et par ailleurs, il y a aussi une situation, parce que les associations se battent pour ça, et elles n'ont pour l'instant pas obtenu gain de cause, c'est que quand on vous rend la maison, avec la scène de crime dedans, ben c'est aux enfants de la nettoyer. Personne n'a rien prévu pour eux. Donc, vous voyez qu'il reste encore quelques combats à mener.
Non mais c'est ça ce que j'allais dire en fait, parce que là, évidemment, je fais une petite intro en parlant des affaires de l'actualité, et puis il y a un côté sociologie, mais on n'est pas là pour faire de la sociologie, on est là pour parler de romans dans cette émission. Et en fait, pendant que je réfléchissais à ces affaires-là en vous lisant, je me disais, c'est vrai que c'est juste un fait divers, c'est des lignes dans un article, et puis après on n'y pense plus aux pauvres gosses. Mais bon, en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas non plus faire tous les jours parler des enfants, des victimes et tout. Et je me suis dit, en fait, ben voilà, c'est ça la solution. C'est que c'est la place du romancier, précisément. Et dans votre roman, ce qui est magnifique, enfin, ce qui est très, très intelligent et la démarche est très, très intéressante, c'est que vous essayez de voir comment ça se passe en vrai, dans les détails. Dans les détails, y compris les détails les plus troublants. C'est-à-dire que quand le narrateur arrive sur place, il y a les gendarmes qui sont devant la maison, effectivement, il ne peut pas entrer dans la maison parce qu'il y a des scellés. Et surtout, à l'intérieur de la maison, c'est une scène de crime. On ne peut pas rentrer dans une scène de crime. Et comment on fait? Est-ce qu'on appelle? Il est à Paris, lui. Il appelle le 17 parce que c'est sa sœur qui l'a appelé, qui est dans leur village. Il appelle le 17, mais s'il appelle le 17, ça sera un standard. Alors, il cherche le numéro de la gendarmerie du village. Et en fait, c'est des trucs, quand on voit l'actualité, on ne pense pas à ce genre de détails.
Et moi, je voulais justement que ce soit très concret, qu'on comprenne exactement ce que c'était cette démarche et que heure par heure et minute par minute, on leur catapulte des choses auxquelles ils ne sont pas du tout préparés et qu'ils doivent pourtant prendre en charge. Et effectivement, on n'imagine pas que il va falloir appeler une gendarmerie, qu'il va falloir arriver et qu'on nous dira vous ne pouvez pas rentrer, c'est aussi simple que ça. Et puis qu'après, il va falloir aller reconnaître un corps. Et ce corps-là, c'est le corps de la mère. Et ce corps a été lardé de coups de couteau, mais il va falloir dire oui, c'est bien elle. Et puis il va falloir, comme dans tous les deuils, préparer des obsèques. Et puis il va falloir, comme dans tous les deuils, appeler des assurances, des compagnies d'assurance pour dire, au fait, elle est morte, il faudrait résilier le contrat. C'est des choses très concrètes, la mort volontaire ou la mort subie. Et donc, j'ai voulu dire ça. Et tous les sentiments qui vous traversent à ce moment-là, c'est-à-dire, évidemment, la sidération en premier, parce qu'on ne peut pas s'y attendre, mais évidemment le chagrin, parce que vous perdez votre mère, évidemment la colère, parce que le père est le meurtrier, et évidemment la culpabilité, parce que vous vous demandez si vous auriez pu empêcher ça. Et donc, c'est tout ce tumulte qui m'intéresse. Et là, effectivement, le romancier a sa place. Parce que, précisément, le roman, il est le lieu du sensible. Il est le lieu de l'émotion. Et que peut-être, si on fait appel au cœur, plus qu'à l'intelligence, plus qu'à la raison, si on fait appel au sensible, à l'émotion chez les gens, chez les lecteurs et les lectrices, on peut espérer éveiller leur conscience. Et ce n'est pas juste quelque chose qu'on lit et qu'on oublie. C'est quelque chose qui va nous imprégner parce qu'on est imprégné des choses sensibles.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Philippe Besson. Pour ceci n'est pas un fait divers, chez Julliard, le récit glaçant d'un féminicide vu par les enfants, c'est-à-dire que le narrateur est le fils de la victime, il a 19 ans. C'est sa petite sœur Léa, 13 ans, qui a été témoin du crime, qui l'appelle un jour au téléphone pour lui dire ce qui s'était passé. Lui revient, va retrouver sa sœur évidemment, et puis maintenant il y a plein de choses à gérer, et c'est ce que vous explorez, Philippe Besson, dans votre roman, c'est... Bon, le traumatisme, évidemment, que subissent ces enfants, mais aussi tout ce qu'il y a de concret là-dedans. On vient d'en parler tout à l'heure, mais moi, ce que je me demandais, c'est comment vous avez fait pour penser à ce genre de détails. Est-ce que, on l'a dit aussi, la genèse de ce roman, c'est une rencontre avec un garçon qui a été victime de ça, dont la mère a été tuée par le père. Et est-ce que vous lui avez... Est-ce que vous avez demandé ? Est-ce que vous avez rencontré d'autres victimes ? Ou est-ce que c'est au fur et à mesure de l'écriture, dans le protocole scientifique qu'est le roman parfois, c'est-à-dire en plaçant des personnages ici et là, vous êtes confronté à des situations qui demandent une réponse ?
Bah, c'est un peu de tout ça. Alors, la première, évidemment, chose que j'ai faite, c'est d'interroger le jeune homme. Évidemment, j'y suis allé avec le plus d'humilité possible et de douceur et de délicatesse, parce que j'avais envie qu'il me dise ce qu'il avait traversé, pour justement trouver cette justesse, parce que dans ce genre de récit, de roman, il faut trouver absolument la justesse. Donc je l'ai beaucoup écouté me raconter les choses et les sentiments qui l'ont traversé pour essayer de leur donner une concrétisation dans l'écriture, dans le livre. L'autre chose aussi, c'est que précisément j'ai écrit ce livre différemment de ceux que j'ai écrit jusque-là. C'est-à-dire, j'ai écrit en tremblant, pour tout vous dire, et avec l'idée justement d'avoir des garde-fous. Vous savez, c'est le contraire de ce qu'on fait d'habitude. Quand on écrit un roman, c'est le lieu de l'exercice d'une liberté absolue. On fait ce qu'on veut, on invente des histoires, on invente des personnages, on invente des situations, on se croit Dieu, on ne se reconnaît aucune limite, on se dit puis on verra bien après tout ce qui se passe. Bon. Et c'est ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on écrit.
C'est chouette.
Oui, mais c'est très jubilatoire, c'est très agréable. Là, évidemment, j'ai écrit sous contrainte, avec l'idée justement de la justesse qui m'apportait considérablement, et l'idée de me dire à la fin, de toute façon, je ferai lire au jeune homme s'il accepte de le lire, et s'il me dit t'es complètement à côté de la plaque, je jette le livre au feu. J'avais aussi un autre garde-fou, deux autres garde-fous qui étaient mes éditrices, qui sont toutes les deux, pour des raisons différentes, très impliquées dans ces questions de violence conjugale, et donc je savais qu'elles auraient un regard impitoyable sur la question. Donc c'est bizarre, mais c'est très rassurant d'écrire en se disant qu'il y aura un jugement à la fin sur ce que vous avez fait. Et puis après, j'ai fait comme je fais d'habitude néanmoins, c'est-à-dire j'essaie d'être dans la situation. Et ce qui est bizarre, parce qu'on ne peut pas être dans la situation, mais enfin... J'ai déjà été un père infanticide, j'ai déjà été une femme dans un tableau de Hopper, j'ai déjà été prostituée à la gare de Florence, j'ai été déjà 18 ou 19 personnages que je ne suis pas dans la vraie vie, et j'ai essayé de leur rendre justice et de leur rendre vérité. Donc à un moment, vous vous mettez là et puis vous vous dites, il y a des choses qui sont plus faciles à faire que d'autres, parce qu'on a tous perdu des gens, on a tous été dans une chambre funéraire, on a tous vu un cercueil avec une plaque sur laquelle il y avait un prénom, un nom et une date de naissance et une date de mort. On a tous parfois dû gérer des situations un peu d'urgence, et donc on revient à ça. On s'est tous posé la question de comment on continue, parfois, après, est-ce que ça vaut le coup ? Donc tout ça, c'est des choses, on fait appel à ce qui nous traverse, ce qu'on a cru comprendre ou cru éprouver. Et puis, on trouve les mots, on ne les trouve pas, j'en sais rien. Mais... Et après, on choisit, enfin, en tout cas moi, j'ai choisi une grande sobriété et une grande nudité, encore plus que d'habitude. Il fallait que l'écriture soit vraiment simple, presque nue, pas de fioritures, rien à rajouter, surtout pas. Il fallait presque désécrire ou sous-écrire, parce que ce qui est raconté se suffit à soi-même. Et donc, si vous en rajoutez, c'est terrible. Il ne fallait pas de pathos à aucun moment. Et donc, il fallait tenir la bride. Et j'espère y être arrivé, mais en tout cas, c'était ça mon obsession en permanence.
Justement, c'est vrai que bon, c'est le cas de tous les romanciers normalement, mais vous, c'est une démarche tout à fait consciente de se mettre toujours à la place de quelqu'un qui a vécu, et c'est souvent un truc pas drôle.
Oui.
est-ce que vous avez déjà eu le syndrome de l'acteur qui reste dans son rôle après le... Enfin, qui se croit dans son rôle?
Alors, jusque-là, non. Je disais tout souvent, moi, je peux... écrire et puis arrêter d'écrire et juste après descendre les poubelles ou m'occuper de mon chat et j'ai aucun problème, je peux passer de l'un à l'autre en une fraction de seconde sans souci, je peux me débarrasser du personnage dans lequel j'étais avec une grande aisance. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas je sais faire. Et puis là, non. J'avoue que pour cette écriture-là, elle me restait tout le temps. Je veux dire, c'était très difficile de s'en défaire, de s'en éloigner. Ça m'enveloppait tout le temps quand même. Donc j'ai eu une forme de gravité, de gravité. Voilà, le mot est peut-être le meilleur. Pendant tout le temps de l'écriture, ça a été plus difficile. Et c'est aussi, une fois que le livre a été écrit, d'habitude, assez rapidement, je me mets à écrire un autre livre. Parce que moi, je fais un livre par an, c'est mon rythme d'écriture. Et donc, j'ai toujours besoin, il y a toujours des histoires qui m'arrivent. Et là, il y a eu un délai de viduité, comme une espèce de jachère, comme si je me disais, est-ce que je vais pouvoir écrire quelque chose après ça? Ça m'avait fait le même effet après avoir écrit Arrête avec tes mensonges, qui est un récit autobiographique que j'ai fait il y a 5 ans. Et je me suis dit, après ça, je crois que je n'arriverai pas à écrire. Comment je vais faire des romans maintenant? Et donc là, c'était pareil. Il y a eu quelques mois où je me suis dit, bon, je ne sais pas très bien ce que je vais pouvoir écrire maintenant. Et puis après, c'est revenu, parce que ça revient toujours. Mais il y a ça. C'est un livre qui m'a plus atteint que les autres. Voilà, on va dire ça comme ça.
Mais d'ailleurs, comme vous en publiez un par an, ça ne doit pas être facile, parce que pendant Paris-Briançon, le dernier...
J'étais en train d'écrire celui-là.
Pendant que vous en parliez, vous étiez en train d'écrire ça.
Oui, c'est très troublant, parce que justement, moi j'aime bien être en train d'écrire un livre quand j'en publie un autre, parce que ça me permet d'avoir, à l'égard de celui que je publie, une espèce de distance qui me permet d'en parler. Parce que, dans l'absolu, les livres, il ne faudrait pas avoir à en parler. On les a écrits, ils existent, et puis ça devrait être fini. Mais on sait qu'il faut en parler. Et pour en parler, il faut trouver une distance à son texte qui est très compliquée, parce que c'est quand même le nôtre, donc on est très très proche de ça. Et le fait d'en écrire un autre fait qu'on peut trouver cette distance-là. On le regarde finalement comme un lecteur, presque. Pas tout à fait, mais pas loin. On arrive à faire ça. Et là, être dans l'écriture, effectivement, de Ceci n'est pas un fait divers, c'était très troublant. Voilà, c'était très difficile. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est qu'à propos de Paris-Briançon, il y a une lectrice qui est venue me voir l'autre jour en me disant, j'ai lu Ceci n'est pas un fait divers, j'ai trouvé ça formidable, j'ai adoré ce livre. Elle me dit, mais Paris-Briançon, c'était plus léger quand même. Je dis, oui, vous avez raison, il y a un accident, oui. Tout le monde mourrait à la fin. Mais
là,
donc,
c'est plus intime, quoi.
Ouais. Oui, bien sûr, là, on était dans quelque chose d'autre, bien sûr.
Vrai, quoi, peut-être.
Bien sûr. Quoi. C'est ça qui est étonnant aussi, c'est que les premières réactions que j'ai des lecteurs et des lectrices sur ce livre-là, c'est qu'évidemment, il y a des gens qui viennent raconter des histoires et qui viennent raconter des choses très intimes sur ça. Et on se rend compte que de la hauteur de l'iceberg.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
La voix est libre sur Europe 1, toujours avec Philippe Besson. Pour Ceci n'est pas un fait divers chez Julliard, je rappelle, le narrateur a 19 ans. Il est parti de Bordeaux pour être danseur à l'opéra à Paris. Et un jour, il reçoit un coup de fil de sa petite sœur Léa, 13 ans, qui vient tout juste d'assister à l'assassinat de sa mère par son propre père, et qui prévient donc son frère en panique, et son frère évidemment la rejoint, et il y a les gendarmes, et il y a tout un tas de choses à faire, des démarches et tout, et Philippe Besson plonge dans le concret de ce qui se passe pour ses enfants, de ces victimes-là, de féminicide. Mais on parlait juste avant la pause, Philippe Besson, justement, vous disiez qu'il y avait une lectrice qui avait lu Paris-Briançon et votre dernier livre, Ceci n'est pas un fait divers, et qui vous disait, ah bah Paris-Briançon, c'était quand même plus léger, alors que Paris-Briançon, c'était pas tellement léger. Mais Paris-Briançon, ça faisait plus roman-roman. Là, vous faites ce que vous faites, ce que vous avez déjà fait beaucoup, c'est-à-dire que vous marchez sur le fil entre fiction et réalité. D'ailleurs, pour un autre livre, vous avez posé quelques problèmes éventuellement. Est-ce que vous pourriez choisir de ne faire que de l'imaginaire ou carrément un essai pour ce genre de thème, ou est-ce que ça s'impose à vous, quoi?
Le roman s'impose à moi, en tout cas.
Et comment on tient la barre?
Un essai, sûrement pas, parce que j'en suis incapable. C'est un métier, je ne suis pas essayiste, je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un philosophe.
Non, mais un reportage, quoi.
Oui, alors un reportage, pourquoi pas, mais en tout cas, ce n'est pas mon métier. Voilà, je n'aurais pas les compétences pour le faire. Écrire, en revanche, des histoires, raconter une histoire, Ça, je crois que je sais faire. Et c'est ce que j'aime faire. Et moi, j'aime raconter une histoire. Me mettre dans la peau d'un personnage, c'est ce qui m'importe. Trouver la langue, trouver le rythme, la mélodie pour raconter une histoire, c'est ce qui m'importe aussi. Faire littérature, c'est-à-dire faire sensible, faire émotion, ça aussi, ça m'importe. C'est ce que je crois savoir faire. Après, vous avez des livres qui sont voués simplement à raconter, à émouvoir. Et puis, vous avez d'autres livres, je m'en méfie toujours, qui peuvent avoir une autre utilité, qui est celle, évidemment, d'éveiller les consciences et de dire quelque chose et de passer peut-être une sorte de message. Ce n'était pas ma volonté initiale, mais, par exemple, quand j'ai écrit Arrêtez avec les mensonges, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était un récit totalement autobiographique que j'ai néanmoins fictionné, puisque je faisais appel à ma mémoire, et là aussi... Cette mémoire est-elle une mémoire exacte? Est-elle une mémoire reconstituée? Est-elle une mémoire fantasmée? Donc, dans ce récit prétendument vérité, il y avait forcément une part de fiction. Et dans les romans qui étaient supposés être des œuvres entièrement de fiction, il y avait forcément des choses que j'avais vécues, mais je me dissimulais derrière la fiction pour raconter des choses intimes. Mais dans Arrête avec tes mensonges, j'avais ce désir d'être précis, de raconter les choses. Là aussi, j'ai le désir d'être au plus près de la justesse, pour qu'on comprenne à quoi ils ressemblent ces gens-là. Voilà, donc c'est ça qui m'importe tout le temps.
Mais est-ce que pendant l'écriture, vous vous dites parfois « Ah là, attention, c'est trop de la fiction, c'est trop imaginaire » ou au contraire « Oh là, je vais trop dans le récit »
On le sent et on se rééquilibre à mesure qu'on écrit. C'est le principe de l'écriture, c'est qu'on marche sur un fil, hein, comme une sorte de funambule, puis à un moment, on voit bien si la perche bouge un petit peu trop et si on est en train de risquer de tomber, et puis on se rattrape, comme ces funambules. C'est essentiellement ça, hein, de l'écriture, tout le temps, sur chaque livre. Donc là, on le sent un petit peu plus et on a un peu plus peur du vide, mais c'est quelque chose qu'on apprend à savoir faire aussi, je crois.
Et alors, dans chaque roman aussi, il y a la question du nom des personnages. Mmh. Et alors là, je n'ai pas encore dit son nom. C'est Cécile Morand, en fait, qui a été tuée.
Oui.
Et son compagnon, c'est Franck Malzieu.
Oui.
Et la petite sœur, c'est Léa. Mmh. Mais le narrateur, celui qui nous raconte et qui a 19 ans et qui est le fils de la victime, lui, n'a pas de nom.
Non, il n'a pas de nom parce que, d'abord... Dans l'absolu, il est le narrateur, donc il n'est pas supposé être nommé, parce qu'il ne va pas se dire je m'appelle Victor.
Ouais, voilà, bon,
je
ne sais pas quoi.
Mais en tout cas, bon, il n'a pas la nécessité de l'être nommé. Et puis je voulais pas qu'il le soit précisément pour pas l'ancrer dans une réalité définitive. Je veux dire par là qu'il fallait que le lecteur ou la lectrice, puisqu'il est le narrateur, puisse s'emparer du jeu, puisse s'accaparer le jeu. Si vous lui donnez un prénom, tout d'un coup, vous le mettez à distance. Vous pouvez le regarder comme quelqu'un d'autre que vous. Si vous ne lui donnez pas de prénom et qu'il dit « je » tout le temps, il y a un moment où vous êtes obligé d'absorber ce qu'il est en train de dire. Vous êtes obligé de vous mettre à la place de ce jeune homme, de le sentir, de le comprendre beaucoup mieux. Donc c'était aussi ça, une des raisons pour lesquelles il n'est jamais nommé. Et puis c'était peut-être aussi inconsciemment une façon de rendre hommage au jeune homme qui lui a un prénom. Voilà, c'était une façon de ne pas l'éloigner de ce jeune homme-là.
Il y a Pierre Verdier aussi, qui est un personnage important.
Mais gendarme,
justement,
absolument.
Ces noms-là, comment vous faites pour les choisir? Est-ce que vous allez voir si ça ressemble pas trop à un personnage qui est un vrai, quoi?
Ah, alors non, je fais pas attention à ça. Je cherche, non. Mais après, je cherche des prénoms qui me paraissent... correspondent au personnage que j'imagine. C'est-à-dire que le gendarme, il s'appelle Pierre, parce qu'il y a quelque chose de chez lui d'assez dur
Pierre
d'emblée.
Verdier, on voit bien,
voilà, on voit bien le personnage d'emblée.
Il est intéressant, ce personnage.
Oui, absolument. Son nom, on projette assez facilement une image sur lui. Cécile, parce que c'est un prénom que j'aime beaucoup, et je trouve qu'il y a une espèce de douceur chez Cécile. Et puis, je ne sais pas, je vois un personnage de Claude Sauté, je vois ces femmes-là. Je ne sais pas, ça me plaisait beaucoup cette idée. Cécile Morand, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle pourrait être joué par Romy Schneider, enfin, il y a longtemps. Donc, c'est juste un pouvoir d'évocation des prénoms. Franck, il s'appelle Franck, le mari, il y a ça aussi. C'est plus... il est ancré dans une réalité sociale qui est différente aussi. Donc j'ai choisi, mais après... Il y a aussi des choses qui nous échappent.
Franck Malzieu, on embrasse Mathias.
On aime beaucoup. Que j'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. J'aurais peut-être dû lui dire, tu sais, j'ai utilisé ton nom de famille. Mais alors pour le coup, il ne ressemble pas du tout.
Non, Franck ne ressemble pas du tout à Mathias.
Non, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et il y a un autre personnage dont le nom n'est jamais nommé, mais qui a de l'importance pour moi, qui est celui du grand-père. Et le grand-père, pardon, je m'y attarde deux secondes, mais c'était important
pour... Chez qui vont
pour...
se réfugier au
voilà,
début.
Vont, quoi, les enfants que... vont se réfugier chez le grand-père. Le grand-père, en tout cas, lui, il est parti vivre en Dordogne, il a pris sa retraite là-bas, et puis tout d'un coup, il abandonne tout, il revient. Il revient parce qu'il faut sauver les enfants. Et j'aime cette idée-là, qu'il faut sauver les enfants, et que cet homme-là est celui qui peut le faire. Ce qui est aussi le cas dans la réalité, hein, puisqu'on l'a dit, les orphelins des féminicides se retrouvent sans personne qui les prend en charge et sans endroit où aller. Et souvent, les grands-parents maternels sont ceux qui, effectivement, vont se charger de récupérer les enfants. Et j'aime bien cette idée que cet homme vient sans se poser de questions. Et puis j'aime aussi que ce soit un homme, parce que c'est une façon de dire que tous les hommes ne sont pas violents, et que, enfin, il y a des hommes violents, il faut les condamner, mais la majorité des hommes ne sont absolument pas des monstres, absolument pas des violents, donc il fait partie de ces hommes qui ne sont pas des violents. Et puis il appartient à une autre génération, c'est-à-dire que les hommes d'une autre génération aussi sont des hommes, peuvent être des hommes formidables et impeccables. Et il est cet homme-là.
Et qui permet aussi que la vie continue, et à la fin d'un chapitre... C'est la vie continuait autour de nous, c'était formidable, c'était épouvantable.
Oui.
Et malgré la présence de rassurante aussi, parce qu'il n'y a pas que le drame, il y a aussi des moyens de se raccrocher à la vie et tout ça, mais c'est impossible en fait, il n'y a pas d'issue possible.
Bah c'est
on comprend ça avec cette phrase.
C'est très compliqué, c'est-à-dire que alors, le narrateur, lui, choisit une position assez radicale, par exemple, pour se sauver, qui est de considérer que son père est uniquement un meurtrier, il le range dans le camp des meurtriers, il tranche. La petite sœur, la jeune fille qui a 13 ans, Léa, elle est dans une ambivalence terrible qui est souvent celle de ses enfants à l'égard de leur père. C'est-à-dire que 5 minutes avant le meurtre, son père était son père. Et 5 minutes après le meurtre, il est encore son père. Et cette ambivalence est celle dans laquelle, en général, ses enfants sont engloutis. Parce qu'on ne se débarrasse pas de l'amour comme ça. Et comment on fait quand on continue d'aimer quelqu'un qui a tué votre mère, ou qu'on continue de savoir que c'est son père? Et cette situation-là est très compliquée à gérer pour les enfants.
Même si la démarche du livre, c'est aussi de nous montrer qu'on a l'impression que c'est brutal et soudain, et puis on se rend compte qu'en fait, c'était un processus très engagé depuis longtemps. Juste dernière question, parce qu'on n'a plus le temps malheureusement, il faudra lire le livre, mais qu'est-ce qu'il a dit, T?
Il a dit des choses bouleversantes. Donc ça m'a profondément rassuré, parce que j'étais un peu, je ne suis pas inquiet, mais enfin, en tout cas, je me disais, je savais que c'était un jugement définitif. Et non seulement il a aimé le livre, mais il lui a reconnu une certaine justesse. Et il a dit des choses très, très, très émouvantes. Je vous en dirai pas plus,
mais en tout
cas, j'étais très, très touché par ce qu'il a dit, en tout cas.
Ceci n'est pas un fait divers, c'est chez Julliard. Merci beaucoup, Philippe Besson.
Merci, Nicolas.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est livre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, il est l'heure de visiter une bibliothèque. Denis Podalydès, l'immense Denis Podalydès, a publié il y a quelques semaines « Célidan disparu au Mercure de France », des souvenirs, des impressions, des sensations de sa vie, ses rencontres aussi culturelles avec la littérature, notamment un portrait en creux. Eh bien justement, allons voir de quel livre il se chauffe. Bonjour Denis Podalydès.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous.
Je vous en prie.
Je suis vraiment content. Ça fait très très longtemps que je voulais venir.
Ah oui.
On n'avait jamais réussi.
Oui,
on
c'est vrai.
On a failli il y a quelques semaines, mais il y a eu des problèmes de Covid, de trucs comme ça. Donc on a remis. Je me suis dit, ça ne se fera jamais, puisque j'ai une fois Denis Podalydès au téléphone pour parler de Mark Twain, et c'est tout ce que j'aurai dans ma carrière.
Ah oui,
et en fait, je suis hyper content. Vous êtes là en vrai.
Oui.
Et je ne suis pas déçu non plus, parce que c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Bibliothèque géante. Et alors ça, c'est très très rare. Classé par ordre alphabétique.
Oui, j'ai toujours classé comme ça, par genre et par ordre alphabétique. Donc un roman, là on est roman littérature générale.
Là on est dans votre
salon.
C'est
comme dans la librairie de ma grand-mère en fait.
Qui était classé comme ça ?
Je suis né là-bas. Qui était, je crois, classé littérature générale, comme dans les librairies en général. Littérature générale, poésie, philosophie... critique littéraire, c'est un peu classé comme ça ici. Ouais.
Vous passiez beaucoup de temps dans cette librairie ?
Beaucoup de temps. À la fois enfant, puis adolescent, quand j'y ai un peu travaillé. Généralement la rentrée des classes, où il y avait du personnel en plus pour assurer la rentrée. C'était des livres de classe, donc je rangeais beaucoup les livres.
Vous ne faisiez pas de conseils aux clients ?
Non, j'étais trop jeune pour vendre, me disait ma grand-mère, donc j'étais dans la réserve.
Trop jeune pour vendre?
J'avais 16, 17 ans. Ma grand-mère estimait que c'était un peu jeune pour faire la vente.
D'accord, pour conseiller un client
oui,
sur un roman,
voilà.
Ou pour toucher
non.
à l'argent quoi.
Je ne touchais pas l'argent parce qu'après les gens allaient à la caisse. Mais j'ouvrais les caisses de livres qui arrivaient. je rafistolais les livres d'occasion et je rangeais les livres sur des rayonnages. Mais c'était plutôt les livres de classe. La littérature, c'était en fin de journée. Quand c'était fini, ma grand-mère m'autorisait je lisais, j'allais dans le rayon de littérature générale et je prenais des livres et je les lisais.
C'est intéressant parce que je savais que la littérature était très importante pour vous, qu'elle était vitale au sens figuré. Mais en fait, elle a été aussi littéralement ce qui a fait vivre votre famille, enfin votre grand-mère en tout cas.
Ah ben ma grand-mère, oui, c'était une sorte de fierté familiale. Pour moi, je la ressentais comme ça. Cette grande librairie qui était très connue à l'ouest de Paris, comme on disait que c'était la librairie la plus importante à l'ouest de Paris.
C'était où ?
Et Versailles. Et je ne sais pas si c'était vrai, mais j'ai toujours entendu comme ça. Et j'aimais que cette sorte de célébrité parmi les librairies.
Et alors, elle est classée par ordre alphabétique, la vôtre. Le problème de ce type de rangement, c'est que pour en rajouter, ça peut être parfois compliqué. Il faut laisser des jours.
Oui, j'ai essayé toujours de laisser des espaces vides qui sont là remplis par des photos, par des cadres, des petits miroirs. J'aime bien que la bibliothèque soit aussi remplie. Maintenant, les enfants y ajoutent énormément de choses.
Mais ils font attention à l'ordre alphabétique ?
Je ne sais pas. En tout cas, ils ne troublent pas l'ordre des livres. Mais sinon, évidemment, c'est l'éternelle question de ceux qui ont des bibliothèques. C'est quand vous rangez roman avec roman, un écrivain qui a fait des romans, des pièces de théâtre et des poésies, le rangez-vous dans trois rayonnages différents ou regroupez-vous ? Alors, moi, ça varie selon les auteurs.
Ah.
Donc, je vois que, par exemple, Thomas Bernhardt, qui est ici... Il me semble qu'il y a les pièces de théâtre sont aussi, voilà, les pièces de théâtre sont là, mm-hmm, avec les romans. Je crois qu'il y a un seul livre de poésie. Même la critique concernant Thomas Bernhardt s'est rangée avec Thomas Bernhardt. Le cahier de Lerne auquel j'ai participé, si j'ai écrit un texte sur Thomas Bernhardt.
Vous nous parlez de Thomas Bernhardt un peu ?
Thomas Bernhardt, c'était un écrivain que j'ai découvert... quand j'étais en Cagne, c'est un ami qui me l'a fait découvrir. Le neveu de Wittgenstein, c'est le premier livre que j'ai lu, je crois. C'était pas très très connu en France dans les années 80. Thomas Bernhardt, il est devenu absolument célèbre après. Et j'ai découvert ce livre. Où est-ce qu'il est ? Tiens, l'imitateur, j'ai adoré ça.
Lequel vous cherchez ?
Je cherche Le neveu de Wittgenstein, c'est le premier que j'ai lu, et curieusement. Alors, il y a des livres, évidemment, qui manquent.
Oui, vous les prêtez. Donc
je les ai prêtés.
Vous les perdez.
Ce que je fais assez rarement, quand même. Mais j'en ai prêté, et je les ai perdus. Alors, celui-ci, où je l'ai déplacé. Maîtres anciens, ça que j'ai beaucoup lu. Alors,
il y a un peu de repassage à côté, c'est pour ça qu'on entend un train qui passe.
Bah oui.
C'est la vie.
Voilà, celui-là, il est très souligné.
Et puis,
parce que voilà.
Crayon de bois ou crayon à papier.
Non, parce que ça, c'est une lecture que j'ai faite avec Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu m'avait demandé, je crois, pour une conférence, un colloque, de lire ce texte en public, qui est un portrait de Heidegger extrêmement drôle. Parce qu'il avait publié un livre justement sur la philosophie de Heidegger, où il déboutait radicalement Heidegger en tant que philosophe nazi, dont les manières aussi. Le philosophe. Tout ce qui touche à Heidegger m'a toujours rebuté, non seulement le bonnet de nuit sur la tête et le caleçon d'hiver tissé à la maison sur le poêle chauffé par lui-même à Tottenhauber, non seulement son bâton de forêt noire taillé par lui-même, mais justement sa philosophie de forêt noire taillée par lui-même. Tout chez cet homme tragicomique m'a toujours rebuté, m'a toujours très profondément repoussé chaque fois que j'y pensais. Mmh. Et j'ai refait cette lecture après un hommage qui lui était rendu au Théâtre de la Colline quelques temps après sa mort.
C'est vrai que vous êtes un grand lecteur de livres à voix haute.
Oui.
Vous faites aussi des livres audio et tout ça.
Oui.
Est-ce que du coup, quand vous lisez maintenant, intérieurement, votre voix de lecteur intérieur, vous savez, quand on lit, souvent on entend une voix, est-ce que la vôtre a changé pour se mettre au diapason de celle que vous utilisez quand vous lisez à voix haute ? Je sais pas si je suis clair.
Probablement, je ne sais pas, quand j'enregistre des romans, je change la voix selon les personnages. Ça se fait très naturellement, ça se fait inconsciemment même. Après, je ne sais pas, au fil du temps, ma voix a beaucoup changé, évidemment, vieilli. L'idée, c'est d'entrer dans le livre et que le livre m'absorbe, m'aspire tout entier et que ma voix soit celle du livre, en fait. J'essaie simplement d'être clair, d'être intelligible et que le livre puisse passer sans que je m'interpose de façon trop présente entre le livre et celui qui l'écoutera.
Mais est-ce que ça a modifié votre manière de lire ?
Sûrement. J'essaie que le style du livre transforme ma manière de lire, mais pas que ce soit moi qui transforme la matière.
Non, mais votre manière de lire quand vous lisez que pour vous, dans le silence.
Oui, sûrement, parce que ça dépend. Ça dépend du livre en question, ça dépend ce pourquoi je le lis. Parfois, je lis un livre parce que, je ne sais pas, je suis en train de travailler un auteur qui a écrit... j'aime bien lire les livres de l'auteur sur lequel je suis en train de travailler. Et puis sinon, oui, dès qu'il s'agit de littérature, j'ai, d'une certaine manière, même en silence, une voix qui essaie de le lire à haute voix.
Il y a mon copain Emmanuel Bove, là, il faut absolument qu'on en parle. Vous avez une belle collection.
Oui.
Donc c'est de cet écrivain Emmanuel Bove qu'on redécouvre un peu ces temps-ci.
On ne cesse de le redécouvrir d'époque en époque et puis de l'oublier aussitôt.
Mais il devient culte pour tous ceux qui le lisent.
Oui. Moi, c'est un auteur, je l'ai découvert par le piège qu'avait mis en scène regretté Didier Besaz, qui est un metteur en scène que j'aimais beaucoup, un comédien aussi, et qui avait fait un spectacle magnifique du piège. Et c'est à la suite de ce... Mais vous voyez, je n'ai pas lu ça depuis très très longtemps. J'adorais les noms, Monsieur Bridet. J'adorais la normalité, voire même la banalité. La grisaille d'existence dans laquelle Emmanuel Bove trouvait son style. Alors, je crois que j'ai à peu près tout lu.
Alors, vous avez
mais
Les Amis.
Les Amis, alors oui, qui est le plus connu que j'ai eu. Et voilà, il est manquant.
Et que vous avez prêté à un ami, donc vous l'avez perdu.
C'est ça, sans doute ça. Non, je suis étonné qu'il ne soit plus là, non. Ouais. Mais je n'ai pas lu Bove depuis très longtemps.
Alors, il y a... une autre bibliothèque immense, mais ce qui est la suite, en fait, de l'alphabet.
En fait, c'est la suite, là.
Et j'en cherche un en particulier.
Dites-moi.
Du côté des T.
Du côté de l'été, c'est en bas.
C'est Twain.
Mark Twain, oui.
Tom Sawyer en particulier.
Bon, bah, Tom Sawyer, il doit...
trahi.
Non, voilà, ça doit être...
Philippe Roth.
Voilà,
Philippe Roth, oui, vous avez la totale aussi.
Pas la totale, mais il y en a beaucoup. Oui, parce que ça, c'est un de mes écrivains favoris, j'adore. J'ai tourné le film Tromperie d'après Roth, donc je me suis remis à lire Roth à ce moment-là. J'en ai lu d'autres, j'en ai racheté certains. Ça, c'est Roth. Ça, je pourrais les mettre dans la chambre, là-haut, il y a des livres de chevet.
Je l'ai trouvé.
Vous l'avez trouvé, Twain ?
Mais, Les Aventures de Tom Sawyer.
Oui. Il y a tout
oui,
ça.
Parce que Tom Sawyer, ça a été retraduit
voilà, c'est ici.
Par les éditions Tristram.
Il y a Huckleberry Finn.
Voilà.
Et je l'ai en anglais. Je l'ai relu en anglais après. Ouais, il y a le Graal. Alors aussi, quand on est rangé par ordre alphabétique, l'ordre est parfois complètement troublé.
Je le cherchais parce que il y a
à deux
7
endroits.
Ou 8 ans, j'avais fait une série de chroniques sur les classiques et à chaque fois, j'appelais quelqu'un qui était fan de tel ou tel classique. Et pour Tom Sawyer, je ne sais pas comment j'étais tombé sur vous et vous m'aviez dit que Tom Sawyer, ça vous avait particulièrement marqué parce que c'était un roman à hauteur d'enfant.
Oui.
Et que vous vous souveniez d'un épisode où il se penche pour regarder par terre
oui,
et qu'on voit la
fait.
Poussière.
Oui, oui. oui, j'aimais beaucoup. Je crois que c'est au début, en fait, c'est la grande tante. Et je suis en train d'oublier la grande tante qui le poursuit. Ça commence comme ça, sa grand-mère ou sa grand-tante le houspille parce qu'il a perdu quelque chose. J'avoue que là, je m'en souviens plus, mais je crois que c'est dans le tout début. Et effectivement, il y a des regards au sol, comme on fait quand on est enfant, quand on est au ras du plancher. Et je pense à un des secrets de ce livre, la faculté d'épouser l'angle de vue d'un enfant, de regarder le monde à travers les yeux d'un enfant. C'est rare, finalement. Je cherchais d'ailleurs, parce que je cherche des livres à lire à mes enfants ou que mes enfants vont pouvoir lire. Et c'est assez rare, les livres qui sont à hauteur d'enfant.
Et qu'on peut relire aussi bien
adultes.
Qu'on peut
relire, qui sont grands, qui sont à la fois
qui sont pas idiots,
des livres qui ont cette sorte d'innocence et qui sont en même temps des grands livres. Il n'y en a pas énormément. Je pense Collodi, Pinocchio. Ça, c'est un
vrai. Dumas.
Dumas. Mais il faut être un peu grand. J'ai essayé de lire Les Trois Mousquetaires à mon fils. Il y a quelques. Là, il va pouvoir le lire par lui-même maintenant, mais là, c'est un rayon poésie.
Ah oui, vous avez une bibliothèque consacrée à la poésie.
Oui, oui, ça c'est poésie.
Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça c'est rare quand même. Comment vous choisissez ? Enfin, pourquoi ils sont là en fait ? Vous venez picorer dedans de temps en temps ?
Picorer, non. Quelquefois je prends. Curieusement, la poésie c'est quelque chose qu'on. Dans le temps adulte, on lit assez peu. J'ai des livres là qui ne sont pas ouverts depuis plus de 20 ans. Et d'autres, oui, que je consulte. En fait, je vais souvent consulter, je recherche quelque chose qui me revient en mémoire et j'ai besoin de les savoir là. J'ai fait un spectacle sur Mallarmé, donc je revenais beaucoup voir Mallarmé qui est là.
Ah, c'est marrant, vous avez mis la Divine Comédie dans votre bibliothèque de poésie. Oui. C'est un chant, en fait. Oui,
oui, oui bon...
On peut considérer que c'est de la poésie ou un roman ou entre les deux ça, quoi.
Oui, oui, alors, il y a des choses, mais je le considère plutôt du côté de la poésie.
Vous avez déjà lu La Divine Comédie ?
Oui.
J'ai pas lu
dans cette version, j'ai lu dans la Pléiade. Non, pas... Si, j'ai fait justement lecture de traduction de... Comment il s'appelle, lui, là, René de Secati, voilà.
Parce que
donc ça, j'ai lu ça en public. Ouais.
J'aimerais bien
qu'il l'a donné, il a dû me... Me le donner et je l'ai aussi par Jacqueline Risset. Mais là, j'ai que le paradis.
Ça vous ennuierait de nous lire le chant premier ou une partie ?
À mi-parcours de notre vie, c'est les fameux vers nel mezzo del cammino della vita, je crois que ça commence comme ça en italien. Pas cammino, c'est vrai. À mi-parcours de notre vie, je me trouvais dans un bois sombre. C'est que j'avais perdu ma route. Il est si dur de raconter combien ce bois était sauvage. Qui repenser accroît ma peur. C'est plus amer que la mort même. Pour traiter bien ce que j'y vis, je donnerai d'autres détails. Je ne sais plus comment j'entrais. Je dormais si profondément que j'ignorais la vérité. Etc. etc. Mmh. Ouais, moi, ça, je n'ai pas regardé ça depuis très longtemps.
C'est une sacrée balade, quand même, cette visite de Dante.
Dante, oui. Bah, Dante, c'est une espèce de monument. C'est comme si d'un seul coup, on disait, bah tiens, allons du côté de l'Everest. C'est tellement gigantesque que je n'ai jamais pu, je crois, maîtriser complètement, avoir une sorte de connaissance panoptique de Dante. Sinon, par fragments, je pense qu'il y a de quoi y passer une vie. Quoi.
Est-ce que vous connaissez des poèmes par cœur ou alors... Vous n'êtes pas du genre à les retenir pour flâner avec eux.
Si je connais, si vous voulez, on peut aller voir l'autre bibliothèque là-bas. Là, c'est que des livres d'art.
Oh, vous avez une sorte de petit cabanon.
C'est ça.
C'est quoi ?
Ce petit cabanon, bah, c'est un bureau. Comme la terrasse était grande, on a choisi de faire construire. J'ai fait construire ça par un ami qui est un ébéniste génial.
C'est chouette.
Et qui en a fait, qu'il a fait de ses propres mains. Et c'est un bureau, moi et ma femme, on a chacun notre bureau, et c'est ici qu'on...
Vous, c'est ici ?
On travaille, oui, c'est là. Donc là, il y a tout ce qui concerne Ostrovski, qui est le metteur en scène, qui est c'est l'auteur sur lequel je travaille, parce que je commence les répétitions de L'Orage en tant que metteur en scène. Donc il y a toute une bibliothèque russe, qui est très, très orientée. Vers Ostrovski.
Et ah puis oui, donc à chaque fois que vous partez sur un projet, vous explorez, vous épuisez le corpus qui va avec. Quoi.
Généralement, dans les années qui précèdent le travail, oui, je vais lire tout ce que je peux lire autour de cet auteur et autour de cet auteur. Là, ici, sur la partie gauche, c'est les auteurs dramatiques, donc par ordre alphabétique aussi. Il y a aussi... il y a toujours des livres aussi qui se greffent et qui n'ont rien à voir là. Mais ça, c'est... Je pense qu'il y a un texte très beau de Pérec sur le désordre ordonné des bibliothèques et sur la raison profonde des bibliothèques. Il y a toujours un ordre apparent. Et puis, il y a un ordre sous-jacent qui, alors, lui, est totalement... qui est très proche aussi de l'arbitraire, puisque c'est ce que la vie... Comment la vie réordonne les livres qu'on a essayé de classer dans un certain ordre. Et donc, il y a toujours un moment où l'ordre ne peut être compris que par celui qui a ou ne plus être compris. D'ailleurs, parfois, il y a des livres, je ne sais pas du tout ce qu'ils font là, mais ils sont arrivés là. Et puis finalement, je décide de ne plus y toucher. Parce que c'est comme... Il y a un côté, on peut se dire, c'est ma bibliothèque, c'est comme ça. Peut-être c'est le seul endroit où je suis totalement arbitraire.
Denis Podalydès, il y a le feu. Mais il y a le feu partout dans le monde. Il y a une pièce à sauver, laquelle on prend.
Une pièce de théâtre ?
Ouais.
C'est Shakespeare. Hein. Quand vous avez Shakespeare, vous contenez. C'est comme si vous sauviez l'ordinateur au lieu de sauver la bibliothèque. Il y a tout là-dedans.
C'est laquelle que vous choisissez ? En fait, je vous ai posé cette question en tombant sur Shakespeare.
Je pense que je prendrais le Pléiade, peut-être.
Ah oui, pas
mais en même temps, j'ai besoin des textes en anglais. Alors, ça serait difficile. Ah ouais, ça mais si j'en prenais qu'une, ça. Ce serait peut-être La Nuit des Rois. Je l'ai sous diverses formes. Je l'ai en anglais, je l'ai en français, dans la traduction que j'ai jouée, la merveilleuse traduction d'Olivier Cadio. Ouais, là, c'est la vieille traduction des Belles Lettres. Traduction ici, je pense, c'est celle d'Alexis Curvert. C'est une vieille traduction. Et la belle traduction de Jean-Michel Desprats.
Pourquoi voilà. C'est toujours Shakespeare ? Pourquoi c'est lui Dieu ?
Parce que il est venu à un moment où le théâtre... C'est le pont entre le théâtre antique et le théâtre contemporain. C'était un moment à Londres, à la fin du XVIe siècle. Il y a un creuset fantastique. Et il y a deux grands fleuves qui se retrouvent, le fleuve de l'histoire et puis le fleuve de la... Disons, de la fin. Le métier d'acteur s'invente à ce moment-là. Le métier d'acteur avant Shakespeare, c'est presque rien. C'est juste des jongleurs, des gens qui parfois disent un texte. Et lui... invente, lui, mais parmi d'autres en fait, nous est resté Shakespeare, mais en fait les auteurs élisabétains étaient extrêmement nombreux. C'est un moment où la ville de Londres double de population. Il y a une population très jeune, avide de spectacle, et il y a un type parmi eux qui se dit tiens, on publie l'histoire de mon pays et en même temps je vois ces traditions de Butler et je vais mélanger les deux. Et à ça j'ajoute ma lecture d'Ovide, les histoires fantastiques d'Ovide. Et donc, il combine ça, un théâtre historique, un théâtre fantastique, poétique, et une espèce de tradition d'histrion, de battleur, de jongleur. Et il va combiner ça, et il fait un théâtre universel.
Oui, mais alors, il révolutionne, il innove, il casse tout, il recommence ce qu'on veut, il refonde le tout. Ouais. Mais pourquoi ? Comment se fait-il qu'on l'ait... J'ai l'impression qu'on ne l'a pas encore dépassé depuis.
En fait, c'est parce que c'est pas, il suffit pas d'avoir un écrivain comme ça. Il faut qu'il y ait aussi. C'est un moment où le théâtre, si vous voulez, le théâtre, c'est comme Hollywood au début du XXe siècle. Il faut qu'il y ait une sorte de foyer énergétique gigantesque pour que de telles œuvres s'accomplissent. Ces œuvres-là, elles ne peuvent pas naître au hasard. Comme ça, aujourd'hui, le théâtre n'est pas la forme. Je ne sais pas, ce serait les séries, ce serait lié à l'Internet. C'est quand, d'un seul coup, là, vous voyez les séries, ce que ça a en 15 ans, ce que ça a pris. Aujourd'hui, la série, c'est la forme qui raconte probablement le mieux le monde dans lequel on est. Il y a toujours une forme comme ça qui prend le dessus sur les autres. Il y a eu le roman au XIXe siècle qui, soudain, le monde s'est raconté au travers de la forme romanesque. Et puis, après, vous avez la forme cinématographique. Le cinéma a pris, au XXe siècle, la proue, la tête, pour raconter le monde. Aujourd'hui, ce serait plutôt la série et tout ce qui est lié aux réseaux sociaux. Je ne sais pas, c'est là. Il y a quelque chose qui s'invente là. Et le théâtre, ça a été Shakespeare, et ça a été le XVIIe siècle français aussi.
Vous avez un type formidable dans votre bibliothèque au milieu des Shakespeare, c'est Pierre Bayard, ouais. Qui est un prof de littérature.
Ah oui, c'est
qui...
sur Hamlet, celui-là.
Bah voilà, parce que ouais. Moi, je le connais bien, enfin, je connais bien ses livres. C'est celui qui a écrit Comment parler des livres qu'on n'a pas lus, oui. Qui a écrit l'enquête sur Deep Tinègre, où en fait, il trouve un autre coupable sur le meurtre de Roger Ackroyd, etc. Il reprend des grands classiques ou la littérature, et il en fait autre chose. Et celui-ci, c'est Enquête sur Hamlet, alors je le connais pas, mais j'imagine qu'il s'attaque aux contradictions que
oui,
d'Hamlet,
de contradictions et la question de savoir qui avait tué le père d'Hamlet, le vieil Hamlet, celui qui apparaît en tant que fantôme. Et il part d'un, je crois, si je me souviens bien, d'un très grand commentateur de Shakespeare. J'ai fait un album Pléiade Shakespeare. C'est pour ça que j'ai passé vraiment 2 ans totalement dans Shakespeare et que j'ai lu quantité de choses, et notamment sur Hamlet. Et l'hypothèse d'un... Mais j'ai oublié le contenu exact. L'hypothèse d'un très grand spécialiste de Hamlet, John Dover Wilson, voilà, dont il reprend l'hypothèse. Et Hamlet, c'est devenu un texte qui est un mythe, évidemment, qui est devenu un mythe et qui est comme une sorte de terrain de champ d'investigation. Les gens enquêtent sur Hamlet. Il y a des gens qui ont passé leur vie à enquêter sur cette pièce comme si c'était un monde, un pays, un fait divers réel d'ailleurs. Oubliant complètement que c'était une pure œuvre d'imagination. Enfin, c'est sûrement inspiré d'une histoire mythologique.
Ça, c'est magnifique quand la fiction accède à la réalité. Comme
à
ça.
Ce statut-là, oui.
La meilleure manière d'enquêter, c'est encore de retourner le voir au théâtre,
peut-être. Je pense, oui. Et c'est pour ça que c'est monté très régulièrement, parce que les gens n'en ont jamais fini avec... Il y a des bibliothèques entières qui sont consacrées à cette pièce.
On va retourner la voir, tiens, et on vous laisse. Merci beaucoup, Denis Podalydès, pour cette visite. Merci beaucoup.
Bonne journée.
La voix est libre.
Nicolas Caro.
Et je rappelle, Célidan, disparu, c'est au Mercure de France.
Europe 1, 14h, 15h, La voix est libre.
Nicolas Caro.
La voix est libre continue. Toute l'équipe de chroniqueurs de l'émission est là.
Ah oui.
Bonjour à tous les trois. Sébastien Bordenave pour la bande dessinée, Loïs Gua, littérature jeunesse, et Christophe Daniel, le magnifique Christophe Daniel.
Ah, nous, on s'en
libraire. Mais si, vous aussi, mais eux, ils viennent exprès. Et ah tout, oui. Librairie La 25e Heure, dans le 15e arrondissement de Paris. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Nicolas.
Nicolas.
Bonjour à tous.
Et ben, on commence justement avec vous, Christophe Daniel.
Alors,
un roman.
Un roman, un magnifique roman, le nouveau roman de Gaël Nohant, qui s'intitule « Le bureau d'éclaircissement des destins », qui paraît chez Grasset. Alors Gaël Nohant, on la connaît maintenant, c'est son 5e roman. Ouais. Elle nous avait fait notamment un superbe roman autour de Robert Desnos, la légende d'un dormeur éveillé. Elle avait raconté aussi l'incendie du bazar de la Charité. Et alors là, en fait, sa narratrice, c'est une femme qui s'appelle Irène, qui a environ 45 ans et qui vit dans une petite ville en Allemagne parce qu'elle a épousé un Allemand dont elle a divorcé. Ils ont eu un enfant ensemble, un garçon, et qu'elle l'élève toute seule. Et elle est dans cette petite ville d'Allemagne de Bad Arolsen. Et en fait, à Bad Arolsen, il y a un centre qui s'appelle l'International Tracing Service, qui est le plus grand centre de documentation des persécutions nazies. Mmh. Elle trouve un emploi par hasard dans ce centre.
Mais là, on est de nos jours.
On est, oui, ça commence en... D'accord. 4, elle arrive dans cette petite ville d'Allemagne en 1990.
Mais bon, c'est de nos jours.
Voilà. Et en 2016... On lui confie une mission, c'est-à-dire que ce centre a récupéré des objets venus des camps, des objets qui n'ont aucune valeur marchande, hein, c'est un petit mouchoir brodé, un pierrot, un médaillon. Et elle est chargée de retrouver la trace des propriétaires de ces objets, savoir ce qui leur est arrivé. Donc ça, c'est son travail d'enquêtrice. On est presque dans un Sherlock Holmes.
Dévoiler le destin à partir des objets. Quoi.
Voilà. Alors ça, c'est une part de son travail. Mais après, il faut retrouver aussi les descendants et leur retransmettre ces objets. Donc, il y a ces différentes temporalités. Hein, l'histoire des camps, la Seconde Guerre mondiale. Et puis... aujourd'hui, comment une famille peut récupérer ces objets et le savoir intime de ce qui est arrivé à leurs grands-parents, arrière-grands-parents, cousins. C'est remarquable parce qu'il y a tout le talent de la romancière de Gaëlle Nohant, et puis il y a son travail de documentation aussi. Donc on est dans le romanesque et dans le document, et c'est vraiment magnifique.
Magnifique, c'est le bureau d'éclaircissement des destins.
Voilà.
C'est chez Grasset.
Rien que le titre, déjà. C'est...
Oui, très beau
intrigant.
Titre.
Héloïse Goy, c'est à vous, littérature jeunesse.
Alors, je vais vous parler de littérature jeunesse. Je précise juste que je suis très raccord avec notre libraire. J'ai aussi adoré ce livre de Guelneau.
Vous avez opiné pendant toute la prestation de Christophe Daniel.
Super, ça se dévore. Moi, je vous parle aujourd'hui de Patatouille de Tiffany Cooper. C'est toujours des noms plus improbables chaque semaine.
Attendez, c'est... Sébastien Bordonnais, vous allez voir, le titre est pas mal aussi. Donc, Patatouille, vous
Patatouille,
dites.
C'est un petit livre malin qui m'a beaucoup amusée. Alors ici, vous le savez, Nicolas, je vous parle régulièrement de livres jeunesse qui abordent de près ou de loin la question du féminisme pour les enfants. Et bien cette fois, le livre dont je vous parle aujourd'hui aborde les injonctions qui pèsent sur les épaules des petits garçons. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un garçon? Qu'est-ce que la société attend d'un garçon dès son plus jeune âge? Messieurs, vous avez 2 heures pour répondre à ces questions.
On vous écoutez plutôt, c'est bien.
Alors je vous apprends rien si je vous dis qu'un petit garçon est rarement élevé de la même manière qu'une petite fille, que ce soit par ses parents ou à l'école. Et Patatouille, le personnage principal de notre livre, incarne justement tout ce qui est imposé à un garçon. Il va venir embêter Solal, qui a 10 ans. Solal se réveille un matin de bonne humeur, mais il découvre près de son lit un monstre poilu qui sent les croûtes de fromage et qui attire de vilaines mouches. C'est Patatouille. Quand Solal lui demande ce qu'il fait chez lui, Patatouille, alias Pat, il répond qu'il est toujours un peu partout, que la plupart des gens ne le voient pas, mais le reconnaissent à son odeur. Bref, vous avez la métaphore, je pense. Alors, à première vue, Pat n'est pas un monstre bien méchant, mais il prend beaucoup de place. Il a un ego un peu débordant. Et surtout, il se met à suivre Solal partout pour lui donner son avis sur ses faits et gestes. Il lui recommande par exemple de ne surtout pas porter ce t-shirt rose s'il ne veut pas qu'on se moque de lui à l'école. Il explique aussi à Solal que ce serait une très très bonne idée de se bagarrer dans la cour de récré pour montrer qui est le plus fort. Patatouille se moque de Solal quand il s'aperçoit que le petit garçon fait de la danse plutôt que de la boxe. Alors si au début Solal se fait influencer par ce monstre puant, il se rend vite compte que ce drôle de personnage lui attire plus d'ennuis qu'autre chose. Patatouille finit même par être piégé dans son propre jeu lorsqu'il est submergé par une émotion et que les larmes lui viennent aux yeux. Or, tout le monde sait parfaitement qu'un garçon, ça ne pleure pas, on est bien d'accord. Et encore moins un monstre alpha. C'est un joli livre rigolo qui encourage les enfants à oser être tendres, doux, jouer avec les jouets qu'ils aiment, bref, à oser être ce qu'ils ont envie d'être. Ça s'appelle Patatouille, c'est signé Tiffany Cooper et c'est publié par la petite maison d'édition super qui s'appelle On ne compte pas pour du beurre.
Et les danseurs sont de très bons boxeurs d'ailleurs, à cause du jeu de jambes.
Ah.
Merci.
C'est vous qui dites.
Non mais j'y pensais pendant que vous parliez. Sébastien Bordenave, allez-y avec
deux
votre
BD,
livre au titre.
Ouais, deux
superbe.
BD, deux salles, deux ambiances, mais un nom en commun, Nine Antico. Aujourd'hui, je voudrais faire une spéciale Nine Antico. D'accord. Le festival de la BD d'Angoulême se finit aujourd'hui, on est un peu triste, mais je suis ravi d'avoir découvert cet artiste qui faisait partie du jury et qui s'appelle... C'est pour voir si je suis fier.
Nine Antico.
Ah d'accord, c'est le même.
Oui, oui, oui. Nine Antico.
Je pensais qu'il y avait un piège.
Non, pas du tout. Alors j'ai dit que c'était une artiste, c'est vrai que ses nombreux talents impressionnent. Elle a par le passé créé un fanzine musical du nom de Rock This Way. Elle a réalisé un film il y a 2 ans avec Sarah Forestier qui s'appelait Playlist. En 2011, Nine Antico a réussi l'exploit d'avoir 2 albums BD en sélection à Angoulême. Elle est la seule à avoir fait ça. Mm-hmm. Et aujourd'hui encore, si vous allez dans votre librairie préférée, il y a 2 albums BD de Madame Antico. Alors d'abord, il y a Madone et Putain, au pluriel. Un très bel album majoritairement fait en noir et blanc, un graphisme à la personnalité folle et sombre. L'histoire, en fait, il y en a 3. C'est 3 nouvelles différentes, mais avec pour toile de fond la condition féminine en Italie au XXe siècle. C'est super pointu comme thématique. Mais Nine Antico s'inspire en fait de 3 destins de femmes réelles, mais dont elle va librement s'inspirer pour faire des récits poignants et questionnants. Il y a Agatha, Lucia, Rosalia, que ce soit l'histoire de la femme que l'on tond car elle a flirté avec la mauvaise personne au mauvais moment, ou celle qu'on a éloignée de sa famille pour des raisons de réputation, ou celle qui est morte d'avoir brisé l'omerta mafieuse. Dans tous les cas, Nine Antico rappelle que dans l'histoire de notre humanité, on n'a peut-être pas toujours sanctifié les bonnes personnes. Madone et Putain, au pluriel, une BD tout sauf anodine, graphiquement très très forte. Deuxième BD, alors là en termes de titre vous allez être servi, parce qu'on passe dans un registre diamétralement opposé, et c'est aussi ça la force de Nine Antico. Elle signe le scénario burlesque d'une BD qui s'appelle Vulva Vulgaris. Alors bon, c'est une petite BD pour adultes. L'héroïne principale est une influenceuse novice qui se met en scène en faisant du ménage. Elle va découvrir des choses insoupçonnées sur son propre corps. Nicolas, je kiffe cette BD qui semble au premier abord anodin, mais qui questionne de façon ludique et sérieuse notre rapport à l'intime, aussi grâce au dessin acidulé et fier de Amina Bouajila. J'étais ravi de vous parler aujourd'hui de Nine Antico, ça m'a réjoui d'avoir découvert cette autrice récemment, autant que cela m'a attristé de l'avoir fait si tardivement. Ça prouve que...
Il y a des
dessinatrices de grand talent, elles sont là, si tant est qu'on veuille bien s'y intéresser un peu.
Mais vous faites le maximum.
Oui,
déjà,
oui,
Sébastien.
Oui.
Redonnez-nous les titres, tiens.
Eh ben, Ninantico, Madone et Putain et Vulva Vulgaris.
Parfait. Et une citation, peut-être ?
Allez, une citation de Calvin Hobbes, un petit garçon et son pote Tigre. Le premier dit « Quand je prends mon bain, quoi qu'il arrive, je mets toujours mon canard en plastique en premier. Ah bon, pour avoir de la compagnie ? Non, non, pour voir s'il y a des requins. »
Eh, pas bête. Héloïse Gouin, vous nous redonnez le titre.
Ah, je pensais que vous me demandiez une citation.
Mais non,
mais
j'ai paniqué. À chaque fois, vous êtes surprise.
Mais c'est
chaque semaine, la même chose.
Patatouille, Tiffany Cooper, c'est aux éditions On ne compte pas pour du beurre.
Parfait. Christophe Daniel.
Alors, Gaël Nohan chez Grasset, le bureau d'éclaircissement des destins.
Merci beaucoup, Christophe. Librairie, la 25e heure, c'est dans le 15e arrondissement. Et merci aussi à tous les deux. Merci également à Agnès Vaudin pour la préparation de cette émission. Merci à Grégory Delpeuch pour la programmation musicale. À Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée. Et dans un instant, Didier Barbelivien, dis-moi ce que tu chantes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.